L'Esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'Esprit public qui va s'ouvrir d'une manière un peu inhabituelle puisque j'ai reçu de la direction de France Culture une lettre qui écarte Jean-Louis Bourlange de la participation à cette émission. Je vous lis cette lettre. Nous nous heurtons donc à deux problèmes bien évidents. Le premier est celui des temps de parole. Chaque émission équilibre durant l'année ses temps de parole, raison pour laquelle nous limitons les politiques ou leur soutien déclaré aux émissions susceptibles de maintenir les équilibres entre toutes les familles politiques de l'extrême gauche à l'extrême droite. L'enjeu est d'autant plus brûlant en période de campagne, cela va sans dire. En l'occurrence, l'engagement public de Jean-Louis Bourlange auprès d'Emmanuel Macron pose un problème insoluble, mais le tout ne s'arrête pas là. Les médias de service public sont interpellés de manière de plus en plus fréquente sur leur supposée position partisane. La question de la crédibilité de nos antennes n'est pas négociable. Comment une personnalité déclarée aux côtés d'un candidat pourrait-elle raisonnablement continuer à commenter la campagne électorale et donc son propre candidat et ses adversaires? C'est évidemment impensable. Les idées sont une chose, l'engagement public auprès d'une personne en particulier en est une autre. En tant que directrice de la chaîne, je suis garante de ces principes déontologiques. Cette question a été débattue entre tous les directeurs de Radio France et les mêmes usages seront appliqués partout. J'en profite d'ailleurs pour te transmettre dans un instant des réactions reçues et transmises par le médiateur, si tu voulais lui répondre. Je discuterai donc avec Jean-Louis Bourlange et tout autre collaborateur régulier de la chaîne qui viendrait à se déclarer officiellement. Il va de soi que dès l'élection passée, il retrouvera toute sa place sur notre antenne. En ce qui me concerne, je m'étais renseigné auprès du CSA, car Jean-Louis Bourlange a toujours été engagé, et d'autres pouvaient l'être, et j'avais compris que le temps de parole de Jean-Louis Bourlange, et éventuellement d'autres, serait décompté de celui de leur candidat. Mais ça n'est pas à la loi, ni aux règles du CSA, que font référence ceux qui ont pris la décision d'écarter Jean-Louis Bourlange, c'est à la sauvegarde de la crédibilité de l'antenne. Je ne doute pas que les courriers l'affluent, je n'ai d'ailleurs jamais reçu ceux qui me sont annoncés dans le courriel que je viens de vous annoncer. Je ne doute pas que les courriers l'affluent et de tous les bords, ils nous en arrivent directement. Il est probable que beaucoup de ces réactions sont celles de gens eux aussi engagés, des militants qui, comme le disait Ambrose Bierce, sont des militaires qui portent leur uniforme à l'intérieur. Mais je pense que céder à l'atmosphère survoltée qui règne en ce moment dans le pays est une erreur et qu'il ne faut céder ni à la clameur, ni à la peur. Et je vais maintenant vous lire la lettre que Jean-Louis Bourlange, avec qui j'ai passé une grande partie de ces trois derniers jours à discuter, m'a adressée en me demandant de vous la lire. Je m'adresse à vous, cher Philippe, chers camarades et chers auditeurs de l'Esprit public, pour vous dire au revoir. La direction de France Culture a décidé de m'interdire toute participation à l'Esprit public pendant la durée de la campagne pour l'élection présidentielle, sous prétexte que j'ai affiché publiquement ma préférence pour l'un des candidats en compétition, en l'occurrence pour Emmanuel Macron. Cette décision est doublement incohérente. Elle l'est d'abord parce que je ne participe pas à cette émission en qualité de journaliste tenu à un devoir de neutralité et d'impartialité, ce que je ne suis pas et que je n'ai jamais été, mais comme ce que Raymond Aron appelait un spectateur engagé, invité en raison et non en dépit de ses prises de position dans le débat public. Parlementaire européen du centre pendant près de 20 ans, longtemps vice-président de l'UDF, je n'ai jamais fait mystère de mon engagement libéral, social et européen, et j'ai toujours eu à cœur au cours des 15 dernières années d'afficher mes couleurs à chaque élection présidentielle ou législative. L'incohérence de la décision se lit aussi dans le calendrier choisi. Pourquoi limiter la mise en œuvre de la sanction à la seule campagne présidentielle et me promettre un retour à l'antenne sitôt ce grand rendez-vous passé alors que la question se posera en des termes strictement identiques pour la campagne des élections législatives et devrait, en bonne logique, appeler la prolongation du régime spécial qui m'est réservé? N'était-il pas déjà contraire à la logique dont on argumente que la direction de France Culture ne se soit pas émue de me voir il y a quelques semaines prendre position en faveur d'Alain Juppé dans le cadre de la primaire de la droite et du centre? Sans doute avait-elle alors conscience de cette évidence aujourd'hui oubliée. C'est la raison d'être de l'esprit public que d'organiser un dialogue, voire une confrontation civilisée, entre des personnalités engagées à des titres divers dans la vie de la cité. Ces incohérences, comme les explications embarrassées de la directrice de l'antenne, révèlent que la raison véritable de mon ostracisme est d'un autre ordre. Il ne s'agit pas de veiller très légitimement à l'équilibre des temps de parole entre les partisans des différents candidats, mais l'allusion au courrier reçu par le médiateur est éclairante à cet égard, de me sanctionner pour les propos très durs que j'ai tenus sur l'un des candidats en le qualifiant de « sournois, lâche et corrompu ». Bien que je ne sois pas seul à formuler une appréciation aussi sévère sur M. Fillon, je comprends que mes propos aient pu choquer certains auditeurs et je ne peux que le regretter. Je constate toutefois qu'ils n'ont pas donné lieu à une plainte pour diffamation, plainte que j'aurais d'ailleurs, en l'état présent du dossier Fillon, accueillie avec sérénité. On sait, et qui les en blâmerait, que les partis politiques excellent à susciter des réactions collectives organisées aux propos qui les dérangent. Céder à ces pressions de la part d'un média comme France Culture revient à reconnaître à certains groupes un droit à l'intimidation et à justifier du même coup l'institution d'un véritable délit d'opinion opposable à ceux qui interviennent sur son antenne. Vous comprendrez que tout en moi m'interdit de cautionner de telles pratiques. Je veux bien être un intermittent du spectacle, mais pas un intermittent de la censure. J'ai donc décidé de mettre un terme définitif à ma participation à l'esprit public. Après plus de 15 ans de présence hebdomadaire au cœur de la Maison Ronde, cette décision me coûte, mais elle est inévitable. Je remercie tous ceux, réalisateurs, techniciens, assistants, qui m'ont permis de m'adresser librement à vous chaque semaine. Ma gratitude va bien entendu d'abord à Philippe Meyer qui m'a donné cette magnifique tribune et qui de plus m'a supporté pendant de longues années, avec un stoïcisme qui mérite hommage. Je l'adjure de continuer aussi longtemps qu'on lui en laissera le pouvoir à porter cette émission nécessaire. Pour ma part, je me contenterai en vous quittant de pousser deux vivas qui devraient n'en faire qu'un. Vive France Culture, vive la liberté de l'esprit. Vous trouverez ces deux textes sur le site de l'émission et je vous propose que nous passions à l'émission telle que nous l'avons préparée et que nous tâchions d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Nicole Nisotto, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, avec Sylvie Kaufmann, directrice éditoriale au journal Le Monde, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, et avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Nous commencerons par nous intéresser précisément à la situation de M. Fillon et aux conséquences de cette affaire. Le candidat des Républicains a réuni la presse à son siège de campagne mercredi. Il a annoncé sa convocation par les juges d'instruction le 15 mars à des fins de mise en examen. Cette demande de comparution fait suite à l'ouverture le 24 février d'une information judiciaire pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, complicité et recel de ces délits, trafic d'influence et manquement aux obligations de déclaration à la Haute Autorité sur la transparence de la vie publique. L'équipe du candidat organise cet après-midi un rassemblement de soutien place du Trocadéro. Le sénateur de la Vendée et initiateur de l'événement, Bruno Retailleau, a réfuté la qualification de manifestation ou de marche contre le coup d'État des juges, comme l'a présenté l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Cette qualification a provoqué des inquiétudes chez les Républicains. La présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse, a demandé une clarification du mot d'ordre de l'événement. Et le député de la Manche, Philippe Gosselin, a dénoncé une stratégie extrêmement dangereuse. Les défections sont nombreuses parmi les soutiens du candidat des Républicains, Bruno Le Maire, des proches d'Alain Juppé comme Gilles Boyer, trésorier de la campagne, ou Benoît Apparu, qui jugent la tournure que prend la campagne incompatible avec leur conception de l'engagement politique. Plusieurs figures locales des Républicains indépendants ont appelé François Fillon à prendre ses responsabilités et à tenir sa parole face aux Français. Le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, a annoncé le retrait du soutien de son parti à François Fillon et demandé solennellement aux Républicains de changer de candidat. Le porte-parole de François Fillon et organisateur de la primaire, Bruno Soler, a annoncé vendredi son retrait de la campagne, suivi de peu par le directeur de la campagne, Patrick Stefanini. Le comité politique des Républicains se réunira un jour plus tôt que prévu, donc lundi, à l'initiative de son président, Gérard Larcher, afin d'évaluer la situation à cette semaine du premier tour de l'élection présidentielle. Sur cette question, Sylvie Kaufmann.
Alors, nous assistons à un retournement absolument extraordinaire dans cette campagne de François Fillon. Si on retourne 3 mois en arrière, ou même un mois d'ailleurs, mais à l'issue de la primaire, François Fillon avait remporté une victoire éclatante, très claire. Il avait réussi à rassembler derrière lui tout son parti, l'appareil, les barons, la base. C'était une très très belle opération qu'on a opposée d'ailleurs à la primaire de la belle Alliance populaire à gauche, qui était moins réussie. Et François Fillon était vraiment lancé dans une dynamique de victoire. Et puis il y a eu les révélations du canard enchaîné, ses accusations, ses problèmes judiciaires. Et aujourd'hui, on est dans une situation où ce rassemblement s'est totalement effrité, s'effondre même. Les défections, vous l'avez dit, se multiplient. Sa candidature est extrêmement fragile. On a un spectacle quotidien quand même assez pathétique, il faut le dire, et difficile même quelquefois sur le plan humain. Alors que reste-t-il à François Fillon? Il lui reste sa base qui apparemment est quand même solide. Il se targue beaucoup de ce socle électoral de 18 à 20%. Et c'est vrai que ce socle ne s'est pas effondré dans les sondages autant qu'on aurait pu le penser. Donc il s'arc-boute sur ce socle et sur cette base qui, il faut se souvenir, est issue aussi de la primaire. C'est sa légitimité de la primaire. Pourquoi est-ce qu'il a été choisi, lui, plutôt qu'Alain Juppé? C'est parce qu'il avait une offre conservatrice très claire, qui n'est pas du tout celle d'Alain Juppé, ce qui est justement le problème aujourd'hui du plan B, d'un plan B avec Alain Juppé. C'est que comment est-ce qu'Alain Juppé pourrait défendre ce même programme conservateur? C'est impensable. Voilà, il lui reste Pénélope Fillon, qui vient de retrouver la parole. Alors, j'en suis très heureuse pour elle, mais enfin, dans une interview au Journal du Dimanche aujourd'hui, où elle ne dit pas grand-chose qu'on ne sache pas, et je trouve que j'ai eu l'occasion de le dire, mais ce traitement médiatique de cette femme est d'un autre âge, c'est pathétique, c'est une insulte à la condition féminine. Et puis alors, on a ce tournant populiste qu'a pris, avec quelques remords un petit peu après, mais enfin, qui a quand même pris François Fillon, avec des accents très durs, très tipartisiens, si je pourrais dire, comme le tipartisien Parti républicain américain. Les élus ont froid sans eux, le climat de quasi-guerre civile, l'assassinat politique, on assassine l'élection présidentielle. Ce sont quand même des mots absolument incroyables qui ont été repris aussi. Ce sont des thèmes qui ont été repris par Bruno Retailleau qui parle de ce candidat qui n'est pas le candidat de la société politico-médiatique, candidat à abattre, victime de lynchage, d'acharnement, de lapidation médiatique. Voilà, là on est dans quelque chose, dans une dérive, je trouve que c'est même un dérapage, et une situation absurde et dangereuse même, d'une élection présidentielle suspendue tout d'un coup à un rassemblement au Trocadéro.
François Bujon de l'État.
Oui, nous sommes dans une situation complètement inédite et il faut bien le reconnaître, très très déconcertante, très déroutante. Si on s'en tient aux faits, à ce que l'on peut constater, d'une part que François Fillon ne peut plus faire campagne, il n'est plus audible, ses manifestations sont troublées par toutes sortes de choses, concerts de casseroles ou protestations des uns et des autres, mais surtout il donne l'impression qu'il se concentre aujourd'hui essentiellement sur la défense de sa position, beaucoup plus que sur l'avenir finalement du pays et des réformes qu'il proposait, qui lui ont valu de gagner haut la main la primaire du mois de novembre. Effectivement. Donc ça c'est le premier point. Il est inaudible, il ne peut plus faire campagne. Le second, c'est qu'en même temps, il est dans le déni Et il est dans la résistance. Il entend résister avec un caractère d'ailleurs tout à fait affirmé. Une partie, en effet, Sylvie, de son socle électoral le seconde. Ce socle ne s'effondre pas, vous avez raison, mais par contre il s'effrite, on le sent bien. Et on verra justement avec la manifestation de cet après-midi, avec les événements de la semaine à venir, ce qui va se passer. Mais lui reste dans le déni, il reste dans la résistance. Il estime qu'il a la légitimité que lui a conférée l'élection primaire et il ne veut pas bouger de là. Et le troisième point, c'est que le peuple de droite, pour utiliser cette expression que je n'aime pas d'ailleurs, mais je l'utilise entre guillemets, est complètement divisé aujourd'hui, mais totalement divisé. Alors qu'il avait semblé faire son unité de façon spectaculaire avec la primaire du mois de novembre et que cette unité avait été saluée, il est aujourd'hui totalement divisé. Vous avez d'un côté, il est divisé par plusieurs choses. Il est divisé d'abord par la détermination, par l'obstination dont fait preuve François Fillon. Il est tétanisé par la crainte de ce qu'on appelle un 21 avril à l'envers, c'est-à-dire l'idée d'un deuxième tour de l'élection présidentielle dans laquelle il n'y aurait pas de candidat de la droite, alors que la sagesse populaire dit, on peut d'ailleurs en discuter, que la droite est majoritaire dans le pays, donc ce sentiment qu'elle risque de se trouver volée en réalité d'un deuxième tour. Elle est tétanisée également par l'appel à la manifestation du Trocadéro cet après-midi, parce que cette manifestation est ambiguë, c'est une manifestation de soutien, elle est présentée comme telle et François Fillon se défendrait bien entendu de toute autre intention que de la manifestation d'un soutien très fort de la part de son socle, mais elle apparaît à beaucoup et elle est dénoncée par beaucoup comme une manifestation contre les juges, contre les médias et par conséquent comme une espèce de manifestation populiste dans laquelle un candidat fait appel non pas aux électeurs mais aux manifestants contre les médias et les juges qui l'accablent. Et puis, elle est paralysée par le facteur de paralysie introduit par la primaire elle-même. La primaire a évidemment conféré l'onction à son vainqueur. La légitimité, quand quelqu'un comme Luc Chatel, par exemple, parce que j'ai vu qu'il avait déclaré ça hier, dit que seul François Fillon est légitime parce qu'il est le seul à disposer de la légitimité conférée par la primaire, c'est vrai, en fait. Et ça empêche, évidemment, toute idée de recours, toute idée de plan B, que Fillon, d'ailleurs, s'évertue à éliminer les unes après les autres. Alors voilà, nous sommes dans cette situation totalement inédite et dont l'issue est tout à fait aujourd'hui imprévisible.
Marc-Olivier Padis.
François, Sylvie et François ont très bien résumé les impasses actuelles de la campagne de François Fillon. Mais je crois qu'au-delà de François Fillon lui-même, c'est l'ensemble de la campagne présidentielle qui se trouve perturbée par cette impossibilité de faire campagne. Donc François Fillon a perdu. Pour compléter ou rejoindre ce que vous avez dit, il a perdu le fond de son message politique. Il avait trouvé pendant la primaire un message politique fort qui consistait en quelques points. Les Français ont droit à un discours de vérité. Le discours de vérité, c'est que la France est en faillite. Le redressement national est possible, mais pour cela, un effort rigoureux est nécessaire. Et c'est à ce prix que l'économie française peut repartir. Et donc l'affaire dans laquelle il est, pour laquelle il est aujourd'hui examiné par la justice, touche le cœur de son message politique. Et son nouveau message politique ne peut pas prendre la place. C'est-à-dire maintenant, c'est un appel au peuple. Le peuple devra trancher son différend avec les juges. Alors là, on n'est plus du tout sur un sujet de campagne présidentielle. Ça devient une vindicte personnel, un règlement de compte, etc. Et donc, lui ne peut plus faire campagne, mais je dirais l'ensemble de la campagne présidentielle est déséquilibré ou la controverse présidentielle ne peut pas tenir lieu avec un des candidats qui est devenu inaudible et qui a perdu le cœur de son message politique. Le deuxième point qui est préoccupant pour la campagne présidentielle, c'est qu'il rend service énormément à Marine Le Pen. D'une part parce que Marine Le Pen aussi a des comptes à rendre à la justice, mais ça se voit moins parce qu'on ne parle que de l'affaire de François Fillon. Et d'autre part, en radicalisant son discours, il semble légitimer des discours traditionnels d'extrême droite qui sont extrêmement dommageables pour les institutions républicaines. Pour résumer, Sylvie parlait tout à l'heure de dérapage. J'ai relevé le message de Xavier Bertrand, par exemple, président de la région Hauts-de-France, qui dit simplement « En République, on ne fait pas siffler la justice ». Je trouve que cette formule, très brève et très sobre, s'impose tout à fait. Et on voit bien que c'était dans les discours de l'extrême droite auparavant qu'on s'en prenait à la tyrannie des médias, au pouvoir des juges, etc. Donc la situation de François Fillon rend extraordinairement service à Marine Le Pen et ce n'est pas l'aspect le moins préoccupant de la situation.
Nicole Nisotour.
Oui, il y a deux aspects dans l'affaire Fillon. Il y a l'aspect personnel, et là, on ne sait même plus si on est dans la politique ou dans la psychologie, voire dans la clinique. Et puis, il y a l'aspect, effectivement, politique, l'impact de tout ça sur notre démocratie. Alors, moi, je ne sais pas comment ça va finir, mais ce qui me paraît évident, c'est que François Fillon plonge sa famille, son parti et la France dans une espèce de cauchemar dont on ne sait pas si on va se réveiller très tôt. Premièrement, le débat politique est totalement suspendu, arrêté, capté depuis un mois. On ne parle plus que de l'affaire Fillon. Monsieur Emmanuel Macron présente son programme. Personne n'a le temps d'y accorder assez d'attention. Et on est dans le même état, grosso modo, de sidération qu'était la France durant l'affaire Strauss-Kahn, même si les deux histoires n'ont strictement rien à voir. Mais il y a de la part du public, des médias, une espèce d'hypnose collective sur cet emballement autour du personnage de M. Fillon. Et deuxième point, donc non seulement le débat politique est empêché, mais la légitimité des institutions et de l'élection présidentielle est mise à mal. On ne sait pas comment la campagne électorale pourra finir. On ne sait pas ce qui va se passer cet après-midi. Certains parlent de report éventuel en cas d'empêchement, de décision d'empêchement du candidat. Et on ne peut strictement rien exclure. On ne sait pas s'il y aura un plan B Juppé ou s'il va se maintenir contre Juppé jusqu'à la fin. Autrement dit, on est dans un état où le processus même d'élection du président de la République au suffrage universel est à craindre. Et puis il y a surtout cet appel à l'émeute, ou en tout cas à la grande manifestation de soutien populaire, qui la résistance du peuple contre le système. Ce sont les propos même de François Fillon qui réfèrent à un bonapartisme le plus anti-républicain qui soit. Et donc c'est là où je suis un peu en désaccord avec Marc-Olivier Fadi. Je pense qu'effectivement, d'un côté, on peut dire qu'il conforte Madame Le Pen, mais en même temps, il la dépasse dans ses excès et peut-être même qu'il la remplace. Moi, ce qui me paraît tout à fait intéressant, c'est l'évolution du personnage Fillon. Et je dis personnage à dessein parce que je pense qu'il sort du réel pour rentrer dans une espèce de fiction personnelle. Il était le candidat de la droite notable, bourgeoise, bien élevée, bien pensante. Il est maintenant du côté encore plus lepénien que Madame Le Pen, dans la dénonciation du système, dans la dénonciation des médias, dans l'appel au peuple contre les élites, la résistance contre le système. Deuxièmement, il était le défenseur des institutions, de la rigueur, de la moralité politique. Il en est le fossoyeur, à tel point que même les déboires judiciaires de Madame Le Pen apparaissent banales, pas trop graves, etc., par rapport à la métamorphose du personnage. Et moi, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'il y a deux, je crois, conséquences paradoxales. Premièrement, la réduction de la droite filloniste à une espèce de noyau dur extrême qui ressemble beaucoup à la partie du Front National que représente Marion Maréchal Le Pen. Il y a une espèce c'est pas un hasard si c'est Sens Commun qui organise la manifestation de cet après-midi. Il y a une espèce de stratégie de rassemblement autour du cœur extrême. Et deuxièmement, il y a une espèce de renversement des rôles. François Fillon a adopté le discours de l'extrémisme populiste, encore plus extrême que celui de Madame Le Pen. Et là, je me demande si c'est un simple emballement psychologique. Est-ce que ce n'est pas une vraie stratégie électorale de sa part ?
Sylvie Kaufmann.
Oui, si on veut illustrer le chemin parcouru depuis 3 mois par François Fillon, politiquement, il faut se rappeler cette citation qui avait eu beaucoup de succès à l'époque. Peut-on imaginer le général de Gaulle mis en examen ? Donc on voit bien maintenant où il en est. Moi, je voudrais revenir sur cette question du caractère de François Fillon, parce que beaucoup de ses partisans disent « Regardez, il fait preuve d'une force de caractère remarquable, ça montre qu'il est capable de tenir le coup dans des situations dramatiques et difficiles, et donc il a l'étoffe, en gros, d'un futur président de la République. » Moi, je suis frappée par le contraire, en réalité. D'abord, dans sa première réaction aux premières accusations du canard enchaîné, il l'a dit lui-même, il a été totalement déstabilisé, il a pris ce coup à l'estomac qu'il a déstabilisé pendant plusieurs jours, et c'est comme ça qu'il a justifié cette confusion dans ses premières réactions, y compris à la télévision. Et puis le comportement qu'il a maintenant, qui est ce déni dont vous avez parlé, cette façon de s'entêter sur son intérêt personnel, sans voir l'intérêt supérieur non seulement de son parti et de son pays, mais de l'enjeu démocratique, la manière dont il nourrit le vote Le Pen, qui devient maintenant un risque totalement réaliste, dont tout le monde est en train de faire des scénarios maintenant sur une victoire éventuelle de Marine Le Pen. Donc là, je dirais, je ne vois pas tellement l'étoffe d'un homme d'État dans ce qui se passe actuellement.
François Bugeon de l'Étang.
Il y a deux choses, je voudrais dire, en écho à ce qui vient d'être dit. La première, c'est qu'il faut regarder à l'étranger ce qui se passe, effectivement. On a qualifié François Fillon de populiste à cause de son appel à l'électeur et de la manifestation de cet après-midi. Il faut simplement regarder qui, à l'étranger, jusqu'à présent, a fait la guerre aux juges et aux médias. C'est assez intéressant de faire la comparaison avec les exemples. Alors voilà, oui, Monsieur Berlusconi, très récemment, mais Monsieur Trump, c'est une des choses que nous lui reprochons finalement, nous Européens, et avant lui Monsieur Nixon, qui avait fait la guerre aux médias et aux juges de la même façon, et on a vu comment ça s'est terminé. Donc, honnêtement, simplement pour dire que François Fillon n'est pas en bonne compagnie en faisant
Monsieur
ce
Orban,
genre.
Vous pouvez ajouter Monsieur Orban pour faire.
Alors Monsieur Orban, si vous voulez, sauf que lui il est toujours au pouvoir, rien touché. La seconde.
Trump
La seconde remarque, très rapidement, c'est que tout ceci ramène quand même sur le devant de la scène le problème de l'unité de la droite. On a beaucoup vanté l'unité de la droite après la primaire de novembre, parce qu'elle avait été réalisée par la victoire de François Fillon, mais on a vu assez rapidement dans les semaines qui suivaient, rappelez-vous, quand il a fallu se mettre en route, que cette unité autour d'un programme qui était quand même un programme néo-thatchérien, comme on l'a qualifié, était une unité largement de façade. Et aujourd'hui, derrière le point de savoir s'il faut que François Fillon se retire ou ne se retire pas, il y a aussi des problèmes d'orientation. Il se dit, on voit bien que l'option Juppé, ce serait une option complètement différente, et que pour Emmanuel Macron, qui est notre prochain sujet, les conséquences seraient très très différentes.
Marc-Olivier Pradis.
D'un mot sur l'hypothèse de Nicole de Fillon doublant l'extrême droite sur sa droite, en quelque sorte. Moi, j'ai en tête le précédent de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire ce qui se passe dans ce cas-là quand un candidat d'un parti conservateur de droite reprend le discours de l'extrême droite. Il n'en tire pas les bénéfices, mais il légitime d'autant plus fortement l'extrême droite et il la fait monter.
Je remercie mon assistant, Augustin Bernard Roudex, m'a fait remarquer qu'au début de l'émission, pris par ce que vous avez entendu, j'ai oublié de dire que la semaine prochaine, dimanche prochain, l'émission sera en public et en direct. Je ne sais pas pourquoi, mais ça nous fera plaisir que vous veniez. Nous allons nous intéresser maintenant, particulièrement plaisir, à Emmanuel Macron, puisque le 2 mars, il a présenté les 6 grands chantiers de son programme politique, avec lequel il espère, je cite, retrouver un esprit de conquête pour bâtir une France nouvelle. Il a dit ne pas vouloir réformer une France irréformable, mais répondre aux citoyens qui attendent une transformation radicale, avant de faire de l'efficacité et la justice les mots d'ordre de son projet politique. Les questions liées à l'éducation et à la culture ont été abordées dans une perspective de transmission des valeurs et d'émancipation pour construire l'égalité des chances. Monsieur Macron a proposé la création de 4000 à 5000 postes d'enseignants, le rétablissement des études dirigées et des classes bilangues, ou encore la création d'une prime de 3000 euros net par an pour les enseignants en zone prioritaire. Le second chantier consacré à la société du travail prévoit entre autres la simplification du droit à l'assurance chômage, l'établissement des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires ou encore la création d'un régime unique de retraite sans modification de l'âge légal du départ. Le candidat a également promis la modernisation de l'économie, notamment par la baisse de l'impôt sur les sociétés de 33,3 à 25%, la transformation de l'impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière, excluant le patrimoine financier, ou encore le non-renouvellement de 120 000 postes de fonctionnaires. Il a chiffré son plan d'investissement à 50 milliards d'euros, dont 15 pour la formation et 15 pour la transition écologique. Dans une perspective de sécurisation de la nation, le candidat d'En Marche s'est engagé à consacrer 2% du produit intérieur brut aux dépenses militaires et il a promis la création de 10 000 postes de policiers et de gendarmes. Dans une perspective de renouveau démocratique, le cinquième chantier propose l'interdiction de cumuler plus de 3 mandats identiques successifs, la réduction d'un tiers du nombre de parlementaires ou encore la fiscalisation de l'intégration de leur rémunération. Enfin, Emmanuel Macron s'est exprimé sur les questions de politique internationale et européenne autour des enjeux climatiques, économiques et de sécurité nationale. Il a placé l'Europe au cœur de son projet et dit vouloir restaurer la crédibilité française vis-à-vis de l'Allemagne. Les ralliements à Emmanuel Macron se sont multipliés ces dernières semaines, à l'image de François Bayrou avec lequel il a une alliance a été annoncée mercredi dernier, ou de François Drugy, ancien candidat à la primaire de la Belle Alliance Populaire. Selon un sondage Elabe publié jeudi, le fondateur d'En Marche accéderait au premier tour avec 24% des voix devant une droite particulièrement affaiblie depuis l'annonce d'une éventuelle mise en examen de François Fillon. Face à Marine Le Pen, elle-même sous le coup d'une convocation judiciaire pour mise en examen, Emmanuel Macron serait élu président de la République avec 62% des intentions de vote. Sur cette question, Nicole Nézotto.
Alors, le programme d'Emmanuel Macron, c'est un peu... On l'a voulu, il l'a fait. Ça faisait des semaines, voire des mois, que l'ensemble des commentateurs, de la presse, des hommes politiques attendaient le programme d'Emmanuel Macron. Il l'a présenté le 2 mars, de façon très cohérente. J'y reviendrai dans un instant. Mais la première chose qui me paraît à noter, c'est que je ne suis pas sûre que la présentation de ce programme dont on nous disait que ça allait permettre enfin de savoir où était la vérité d'Emmanuel Macron, je ne suis pas sûre que cette présentation change grand-chose, pour deux raisons. La première, on en a parlé tout à l'heure, c'est parce que le débat politique est empêché par l'hystérisation de l'affaire Fillon. Et donc, il faudra attendre un peu, je crois, pour qu'on analyse très sérieusement le programme présenté d'Emmanuel Macron, mais à 2 mois de l'échéance présidentielle, c'est quand même un peu dommage qu'on ne soit pas en mesure de comparer les programmes des candidats. Mais deuxième raison pour laquelle je crois cet événement n'a pas l'impact décisif qu'on lui prêtait, c'est parce que je crois que le phénomène Macron tient autant à une démarche personnelle qu'à un programme, tient beaucoup à une personnalité assez hors du commun, et davantage en tout cas à cette personnalité qu'à une série de recettes de gouvernement. D'ailleurs, il le dit lui-même, c'est moins un programme qu'un projet. Il propose une vision pour la France dans le monde et dans l'Europe, et il n'est pas, et ça n'est pas un programme de Premier ministre, ce n'est pas son rôle. Donc ça, je crois que c'est important. Et moi, je voudrais juste faire allusion ici à une analyse de Philippe Reynaud que je trouve assez intéressante et qui dit que ce qui fait la force d'Emmanuel Macron, programme publié ou pas, c'est qu'il est au carrefour de deux héritages collectifs français. D'une part, le gaullisme le plus grandiloquent, c'est-à-dire la rencontre d'un homme et d'un peuple, et d'autre part, le rocardisme de l'ex-deuxième gauche, autrement dit, la rencontre entre un projet politique libéral, progressiste, moderne, et une rhétorique passionnelle, charismatique, quasi mystique, qui était celle parfois du général de Gaulle. Alors c'est assez contradictoire. Certains parlent d'un modèle scandinave pour le programme d'Emmanuel Macron, mais une Scandinavie gaullienne ou une passion scandinave, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, avec tout le respect que j'ai pour la Scandinavie. Mais en tout cas, c'est cela qui séduit profondément, c'est ce mélange de nos deux héritages collectifs. Alors un dernier point peut-être pour dans cette introduction, il y a quand même un paradoxe, Emmanuel Macron, moi qui me frappe et je ne sais pas comment le résoudre. D'un côté, c'est un homme profondément sincère dans l'idée qu'il veut réformer, moderniser la France dans les 5 ans à venir. Cette France que l'on nous dit dans tous les sondages, irréformable, déprimée, dépressive, sclérosée, paralysée, etc. Tous les sondages d'opinion, en particulier les comparaisons que l'on a au niveau européen, montrent que les Français sont le peuple le plus dépressif, sinon de la Terre, en tout cas du continent européen. Donc il veut réformer cette France-là. Or, le simple fait de son élection signifierait déjà que le problème est résolu. Autrement dit, s'il gagne, c'est que la France a déjà changé. C'est qu'elle adhère à l'ouverture, l'énergie, l'espèce de confiance en soi qu'il revendique et qu'il incarne, et que son élection supposerait déjà le problème résolu. Et donc c'est pour ça que j'ai un tout petit doute sur les sondages qui nous présentent sa victoire comme pratiquement assurée, en tout cas depuis l'affaire Fillon, parce que je n'arrive pas à imaginer que la France soit prête à cette espèce de bouleversement moderne, libéral, ouvert qu'il représente, quand on voit à quel point les sondages nous montrent une dépression française.
Je suis rassuré que vous ayez exprimé votre respect à l'égard de la Scandinavie. C'est un genre de phrase qu'on dit sans s'être jamais interrogé sur la Scandinavie, ni les sentiments qu'on a à son égard. Mais j'espère que les Scandinaves qui nous écoutent, et qui sont certainement nombreux, seront eux-mêmes satisfaits. François Bugeon de l'État.
Moi, je vais continuer à céder à ma déformation professionnelle, j'espère que vous ne voudrez pas beaucoup, et aller chercher mes exemples à l'étranger, mais je suis quand même frappé de voir que le New York Times d'hier, je n'ai pas besoin d'aller très loin, publie une page entière signée de Tony Blair pour expliquer que l'avenir est dans le centrisme. Venu de la part d'un réformateur social-libéral qui a fait ce que les Allemands ont fait avec le Bad Godesberg et qui a modernisé le parti travailliste britannique avant d'aller se perdre, hélas, dans les sables de la guerre d'Irak, c'est tout à fait intéressant. Ce que dit Tony Blair, c'est qu'au fond, il ne parle pas d'Emmanuel Macron, bien entendu, mais on retrouve le profil en filigrane d'Emmanuel Macron à travers la totalité de cet éditorial qui explique qu'en réalité, face aux extrémistes, face au refus de la globalisation, face au populisme qui monte partout, la seule réponse que l'on puisse trouver, elle est au centre et elle est dans le réformiste modéré qui arrive à trouver des échos, non pas populistes, dit-il, mais des échos populaires. Et au fond, c'est une assez bonne description du programme qu'Emmanuel Macron a fini par présenter. C'est vrai qu'on le lui réclamait à cor et à cri, il avait présenté des propositions, mais pas sous la forme d'un programme cohérent. Il a fait cette fois-ci cet effort de cohérence, et l'effort de cohérence auquel il s'est livré reflète bien l'exercice d'équilibre politique assez extraordinaire auquel il se livre depuis le début de cette campagne. C'est-à-dire que, d'un côté, il ne doit pas être réduit aux seules forces centristes, parce qu'à elles seules, elles ne suffisent pas, bien entendu, à assurer la majorité. Au début, il n'avait pour lui que les seuls progressistes, les socio-réformistes, si vous voulez, qui n'avaient pas trouvé leur compte dans la politique du président Hollande. Puis, avec la victoire d'Hamon, il récupère bien entendu des valsistes et des membres du Parti Socialiste qui ne croient pas à l'utopie hamonienne, mais il ne veut pas se contenter des orphelins de Hollande, des déçus de Juppé, des People ou de Bayrou. Il lui faut trouver davantage. Et il s'est efforcé de mener avec beaucoup de talent jusqu'à présent cet exercice d'équilibre qui l'amène aujourd'hui à dévoiler un programme économique qui est un programme de réformiste soft, finalement, qui ressemble beaucoup, parce qu'il y a participé à certaines propositions jadis du rapport Attali, qui est loin des extrêmes et qui serait, pour paraphraser Clausewitz, la continuation du hollandisme par d'autres moyens. C'est quand même tout à fait intéressant parce que ces propositions dans le domaine social, ces propositions dans le domaine fiscal réservent beaucoup de points qui apportent des satisfactions au patronat, par exemple, ou à un électorat modéré ou réformiste de droite, juppéiste, par exemple. Mais en même temps, il arrive à éviter de s'aliéner la gauche en évitant les écueils comme la suppression de l'ISF ou comme la suppression des 35 heures. Il ne va pas si loin. Il trouve des amodiations, il trouve des arrangements. Et au fond, quelqu'un a dit qu'il s'efforçait de séduire tout le monde sans mécontenter personne. La formule est habile, elle est assez vraie, parce que je crois que c'est ce qu'il a réussi à faire avec la présentation de son programme économique.
Marc-Olivier Padis.
Exercice d'équilibre politique, certainement, et on est frappé, enfin moi j'ai été frappé à la lecture de ce programme par des mesures qui sont vraiment de droite dans ce qui est proposé. François a parlé de continuation du hollandisme, peut-être, mais il y a retour en arrière, par exemple, sur deux réformes emblématiques de François Hollande, ou en tout cas de son ministre, de ses ministres de l'éducation nationale, la réforme des rythmes scolaires, laissée au libre examen des maires, le retour des classes bilingues, un discours d'autorité assez classique sur l'école, et puis des mesures de droite libérale, comme la transformation de l'ISF en impôt uniquement sur la fortune immobilière, dans le domaine de la justice, l'exécution systématique des peines, dont je vois mal comment elle serait possible. Ça veut dire supprimer le juge d'application des peines, la création de 15 000 places de prison, 10 000 postes de policiers et gendarmes, ça je vous accorde, c'est dans la continuité de François Hollande, la suppression de 120 000 fonctionnaires sans qu'on sache où ils seraient pris, alors même que la fonction publique hospitalière serait sanctuarisée dans ce programme. Et puis, d'autre part, il se distingue aussi beaucoup de François Hollande sur la question des partenaires sociaux. C'est-à-dire que François Hollande s'est appuyé sur la négociation entre les partenaires sociaux pour un certain nombre de dossiers. Alors que ce que propose Emmanuel Macron, et je voudrais le souligner, c'est des mesures très ambitieuses sur deux chantiers qui sont l'assurance chômage et les retraites. C'est-à-dire le fait de faire un régime unique de retraite, c'est-à-dire la fin des régimes spéciaux, là ça irait beaucoup plus loin que tout ce que la gauche a réussi à faire jusqu'à présent, et même Alain Juppé n'avait pas réussi à réformer les régimes spéciaux en 95, on s'en souvient bien sûr. Et sur le fait de créer une assurance chômage universelle, ça veut dire de retirer aux partenaires sociaux la gestion de cette assurance chômage, ça veut dire que cette assurance chômage n'est plus financée par les cotisations sociales mais par l'impôt sous la forme de la CSG, intégrer les professions libérales, les indépendants, ce qui me semble d'ailleurs plutôt une bonne idée dans l'assurance chômage, donner la possibilité de démissionner pour un salarié, c'est aussi des choses importantes. Mais là, il y a vraiment une ambition assez importante. Alors, pourquoi est-ce que ce serait possible pour répondre ou réagir? Ce serait, je n'ai pas le temps de rentrer dans la discussion, mais par rapport à la question qu'ouvrait Nicole, qui me semble très juste, je pense que, comme l'a bien dit Philippe, il ne s'agit pas de réformer un pays présumé irréformable, parce que ça, c'est l'impasse justement des socio-réformateurs, des rocardiens, etc. Il trouve un autre discours qui est un peu sur un fil de crête, qui parle plus de confiance et d'initiative. C'est pour ça qu'il met beaucoup l'accent sur les entrepreneurs, les indépendants, etc., où il essaye de valoriser plutôt la mobilité. Et en fait, plutôt que de parler de modèle scandinave, en fait, c'est les deux termes qu'on a en tête, c'est mobilité mais protection. Et toute la question, c'est comment trouver le bon équilibre incitant les Français à plus d'optimisme, plus de mobilité, plus d'initiative, et en retrouvant des formes de protection qui fonctionnent véritablement pour tous et de façon équitable. Et c'est le sens, me semble-t-il, des propositions sur la réforme du chômage et des retraites.
Sylvie Kaufmann.
Oui, alors je ne vais pas revenir sur les détails de son programme, puisque ça a été très bien fait. Je voudrais juste souligner deux points que moi je trouve particulièrement intéressants. C'est d'une part son déterminisme européen, pro-européen. C'est vraiment un point très très fort et c'est un marqueur de l'identité de son programme. C'est un point audacieux, je trouve, par les temps qui courent. C'est d'ailleurs le seul candidat qui se déclare aussi ouvertement pro-européen. Il a compris que la clé de cette Europe indispensable, c'est le franco-allemand. Et donc, il est prévu dans son programme ces mesures qui sont à même de relancer la confiance, de refonder ce tandem franco-allemand pour obtenir une force de frappe dans les investissements communs, un budget commun, etc. On reconnaît là, je crois, un peu la patte de Jean Pisani-Ferry qui a beaucoup contribué à son programme. Voilà, je trouve que cette dimension-là est est importante et très intéressante. L'autre aspect que je trouve intéressant aussi, c'est ce que vient de décrire Marc-Olivier Padi, c'est cet accent mis sur la responsabilité individuelle, tout en contrebalançant cet impératif avec quand même une bonne dose de solidarité. Dans le monde du travail, dans les assurances sociales, bon, cette recherche d'un équilibre entre la mobilité et la protection que je trouve aussi très intéressante. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que finalement Emmanuel Macron se présente comme l'anti-Le Pen. Il est européen, elle est pour le Frexit. Il est pour une mondialisation organisée, mais il est pour la mondialisation. Elle est pour le protectionnisme. Il est pour la discipline budgétaire. Elle offre un laxisme assez terrible. Il est pour il met l'accent sur la moralisation de la vie politique. Elle refuse de se rendre à la convocation des juges. Et puis il est dans la modernité qu'il assume, alors qu'elle est totalement, de plus en plus d'ailleurs, dans la nostalgie du passé. Et je trouve ça assez intéressant. Chez Macron, finalement, c'est qu'il est le seul des candidats à offrir, alors c'est peut-être dû à sa personnalité, à sa jeunesse aussi, enfin c'est favorisé par cette dimension-là, mais à offrir un projet positif, une vision positive, tournée vers l'avenir. Il n'est pas dans le ressentiment, il n'est pas dans la haine comme certains autres candidats, il n'est pas dans la revanche, il n'est pas tourné sans arrêt vers le passé. Voilà, il est dans une modernité assumée et c'est dans ce climat que nous avons décrit depuis le début de cette émission, d'une certaine manière assez rassurant. Il offre aussi il illustre ce clivage qui apparaît de plus en plus entre européens et souverainistes, ou entre nationalistes et internationalistes, qui est en train de dépasser ou d'inclure le clivage droite-gauche. Alors il y a des points faibles, il y a des chiffres à préciser dans son programme, il y a ce côté christique qui moi me trouble un petit peu, qui est difficile à cerner, et puis il y a aussi, je trouve, ce qui nous manque quand même beaucoup, c'est comment est-ce qu'il va arriver à séduire cette France périurbaine, rurale, qui est le vivier du vote du Front National.
Nicole Nézotto.
Oui, avec un président de la République, François Hollande, qui est à, je sais pas, 12, 13, 16% des voix, la comparaison avec...
Il n'est plus dans les sondages, en fait.
Même plus, oui. La comparaison
parce que probablement, s'il y était aujourd'hui, il serait beaucoup plus haut, par la force des choses.
La comparaison avec le hollandisme a quand même quelque chose d'assez négatif, voire de péjoratif, et je voudrais la contredire sur au moins deux points. Premièrement, le programme et la personnalité de Ferrand n'ont strictement rien à voir. Le président, le quinquennat de François Hollande était dans la protection, dans l'espèce de chape sécuritaire dans lequel, ça n'était pas de sa faute, mais dans lequel il a borné son discours politique. Emmanuel Macron a confiance en lui et donne confiance aux gens qui l'écoutent. Je crois que c'est ça, sa différence essentielle. C'est quelqu'un qui est dans l'énergie, dans l'avenir, dans la confiance, et non pas dans la protection et le renfermement et la déresponsabilisation de la société. Deuxièmement, son programme sur la modernisation de la vie publique, voire sur la moralisation de la vie publique, est totalement contraire à l'image que laissera le quinquennat de François Hollande. Deuxième point, sur un autre sujet complètement. Je crois que, là, pour reprendre ce que disait François Bugeon de l'Étang sur le centre, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est la crise du système politique français. Ça, on en a beaucoup parlé, mais quand même, on avait un système qui était organisé pour que deux partis, la droite et la gauche, captent le débat politique et permettent une alternance entre ces deux grands partis républicains par le suffrage universel, ce qui marginalisait et le centre et les extrêmes en dehors du pouvoir. On est aujourd'hui dans une situation totalement inverse. Aux portes de pouvoir, on a et le centre et peut-être les extrêmes avec Madame Le Pen, et une marginalisation totale des partis républicains. Et ça n'est peut-être pas une mauvaise chose si le centre permet de sortir de la crise politique française.
François Bugeon de l'Étang.
Oui, je maintiens malgré tout qu'il est dans la continuation du hollandisme par d'autres moyens. J'ai bien dit par d'autres moyens. Il en a été largement l'inspirateur. Il a passé 2 ans à l'Élysée. Il a été 2 ans ministre de l'économie de François Hollande. Donc, il ne peut pas échapper à l'association avec le bilan de celui-ci. Mais par d'autres moyens. Il veut justement, il est sorti du gouvernement et maintenant il fait campagne parce qu'il veut aller plus loin sur un certain nombre de points. Et ce sont ceux sur lesquels on lui fait crédit. Un point pour illustrer ceci. En écho à ce qu'a dit Sylvie, je crois très important de mettre l'accent sur le fait qu'il est pro-européen et qu'il met l'Europe au centre de son projet et au centre de sa vision. Et en ceci, vous avez raison, Sylvie, de dire qu'il est le seul à le faire. Mais il s'y prend différemment, justement. Au lieu de dire « je vais renverser la table et entreprendre une négociation avec l'Allemagne qui mènera sans doute au désastre comme celui d'il y a 4 ans », il dit « il faut acquérir la considération des Allemands et leur prouver que nous sommes sérieux avec les équilibres budgétaires. Et donc, je mets en avant le respect de ceci à 3%. »
Marc-Olivier Padis.
Nicole et Sylvie faisaient part de leur perplexité devant le style d'Emmanuel Macron. On a parlé de télévangéliste, de style christique dans sa rhétorique.
Moi, j'aime bien.
Je pense qu'il y a quelque chose, précisément, d'un christianisme subliminal chez lui, qui est beaucoup plus efficace que le catholicisme pratiquant affiché d'un François Fillon, qui renvoie à des formes un peu désuètes d'adhésion religieuse, alors que cette espèce de christianisme subliminal parle beaucoup mieux à un pays catholique déchristianisé.
Je vous remercie. L'émission se terminera un peu plus tôt en raison du printemps des poètes. Vous allez avoir la chance d'entendre Afrique, lu par l'excellent Jacques Bonafé. Auparavant, je rappelle donc que la semaine prochaine, nous sommes en public et en direct, que pour s'inscrire, il suffit de se rendre sur le site www.maisondelaradio.fr. Et puis, il est entendu que nous n'allons pas étaler dans cette émission la tristesse que la situation faite à Jean-Louis Bourlange nous cause et que je parlerai pour tout le monde. Il y a une expression chez les générations plus jeunes que nous que je trouve particulièrement adaptée à Jean-Louis. Il est trop. De quelque façon qu'on l'envisage, Jean-Louis Bourlange est trop. Indépendant, féru d'histoire, intéressé, connaisseur en économie, trop bavard quelquefois, il a même été trop gros jusqu'à ce que par un effet d'héroïsme, il perd de 30 kilos, mais qu'est-ce que c'est que nous qui avons tous des physiques de radio, sinon on ne serait pas là. Il est trop et il est juste. Et ça n'est pas innocent que la dernière fois que vous aurez entendu sa voix dans cette émission, c'était pour saluer Max Gallo. Avec Max Gallo et Jean-Louis Bourlange, cette émission a pris la forme de camaraderie, très au-delà du contenu des propos. La forme à laquelle je tenais par-dessus tout, mais que je n'aurais pas pu réussir sans eux, la forme d'une conversation entre des gens qui non seulement s'écoutent et se répondent, mais en plus ont plaisir à se voir et savent qu'au fond, s'ils ne sont séparés que par leurs opinions, ça n'est pas par grand-chose. Sylvie Kaufmann.
J'ouvre la séquence des brèves, alors cet honneur m'incombe, et cette lourde responsabilité. Je voudrais vous parler d'un livre sur la Chine, qui s'appelle « La Chine en eau profonde », qui est écrit par Sylvie Berman, qui est aujourd'hui notre ambassadeur à Londres et qui l'a été à Pékin avant d'être à Londres, et surtout qui s'est rendu en Chine pour la première fois il y a 41 ans, à la fin de la Révolution culturelle. Et c'est donc cet itinéraire, cette extraordinaire ascension de la Chine qu'elle raconte en ayant assisté aux premières loges. Et pourquoi la Chine en eau profonde ? C'est une référence évidemment à cette phrase de Deng Xiaoping qui, à la fin des années 70, disait « La Chine doit petit à petit s'appuyer sur les pierres du gué pour traverser la rivière en tâtonnant ». Et puis, il y a quelques années, le président Xi Jinping a dit « Nous n'avons plus besoin de pierres, il n'y a plus de pierres, maintenant nous sommes en eau profonde ». Voilà, c'est cette traversée ex-fantastique que nous raconte ce livre.
François Bujon de l'Étang.
Je crois que dans les périodes où la politique est désespérante, il faut se tourner de plus en plus vers la littérature. Et donc, j'ai plaisir à recommander ce matin le recueil de chroniques que Dino Buzzati, le célèbre auteur du désert des Tartares, a donné au Corriere della Sera pendant une quarantaine d'années de sa vie et que l'éditeur Robert Laffont a eu la bonne idée de publier sous le titre « Chronique terrestre » dans la collection Pavillon Poche. Dino Buzzati était né en 1906. Il était assez vieux pour avoir pu accompagner l'armée italienne pendant la campagne d'Éthiopie ou la marine italienne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des chroniques de correspondants de guerre qui sont tout à fait extraordinaires. Il y en a beaucoup d'autres qui tiennent à la vie ou aux faits divers. Et chez ce maître de l'ambiguïté angoissée qu'est Dino Buzzati, les moindres faits divers ou par exemple les adieux de Maria Callas à la Scala prennent un relief tout à fait inattendu et dont je recommande vivement qu'on le savoure.
Marc-Olivier Padis.
comme François, je me suis consacré un peu à la littérature et cette semaine, j'ai lu avec un grand plaisir le roman de Laura Alcoba, La danse de l'araignée, dans la collection Blanche chez Gallimard. Laura Alcoba raconte depuis plusieurs romans, Manège et puis Le bleu des abeilles, son itinéraire d'enfant de jeune révolutionnaire argentin emprisonné et persécuté, réfugié en France. Donc Manège racontait sa vie clandestine de petite fille en Argentine, Le bleu des abeilles son arrivée en France à l'école primaire, et là dans La danse de l'araignée, elle raconte ses années de collège, l'apprentissage de la langue française, la découverte de la politique, et elle raconte notamment l'élection de François Mitterrand le 10 mai 1981, vue par des réfugiés politiques argentins. C'est un très beau moment.
Nicole Nézotto.
Moi, j'ai été très enthousiasmée par une pièce de théâtre qui se joue rue de la Gaîté au Théâtre Rive-Gauche jusqu'au 4 avril. Et il s'agit de l'adaptation théâtrale d'une nouvelle ou d'un petit roman d'Irène Némirovski qui s'appelle Le Bal et qui est adapté en l'occurrence par la comédienne Virginie Lemoine. Alors, le texte, on le connaît, c'est un chef-d'œuvre de méchanceté bourgeoise, c'est un chef-d'œuvre de cruauté entre la mère et la fille. Mais c'est à la fois drôle est absolument terrifiant, c'est mis en scène de façon admirable, joué par des comédiens qui vraiment méritent d'être connus et reconnus, donc allez-y, vraiment, c'est jusqu'au 4 avril.
Puisqu'il nous reste une minute, je voudrais signaler la parution aux éditions du Cerf d'un livre de David Jayes, qui est un jeune homme de 26 ans, qui est un normalien énarque, qui s'intitule « La guerre civile n'aura pas lieu ». Je parlais tout à l'heure, d'ailleurs, en reprenant un mot du président de la Cour de cassation, de l'ambiance survoltée dans laquelle nous débattons aujourd'hui. Le livre de David Jayes est une réflexion sur le fait que le conflit interne, est inhérent au fait de société et en détermine la vie. C'est-à-dire, c'est le contraire, c'est l'intelligence en face et la réflexion face à la surexcitation. Et je recommande cet ouvrage aussi parce que il est riche d'une réflexion historique et philosophique très informée. Vous avez rendez-vous maintenant avec Alain Crugère dans « On ne parle pas la bouche pleine » pour une exception agriculturelle. La gastronomie est-elle une marchandise culturelle comme une autre? Si vous m'en croyez, certainement pas. C'était « L'Esprit public », une émission de Philippe Meyer réalisée par Luc-Jean Reynaud, préparée avec Augustin Bernard Audex et Mathilde Cadreau. Avec aujourd'hui à la technique Jean-Frédérix, nous espérons donc vous retrouver la semaine prochaine à la même heure, soit sur cette même chaîne, soit même au studio 105 de la Maison de la Radio.